France Culture.
Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. Paul Valéry. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Et c'est à cette profondeur tragique et insondable que va se consacrer ce soir Mauvais Genre en rencontrant une des personnalités les plus fascinantes du cinéma français, la cinéaste et romancière Marina Devant. Un long entretien touchant deux de ses œuvres les plus emblématiques, Dans ma peau, film de 2002 qui ressort en Blu-ray 4K chez Pulse Vidéo, et Point de suture, un roman publié aux éditions Abstraction. Cannibalisme intime, autophagie et appréhension du corps défiguré sont au cœur de ses œuvres inouïes. Chronique en second temps d'émission, signé Sixtine Audebert, Stéphane Duménildo et Philippe Rouillet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui est ce soir absolument ravi d'accueillir Marina Devant avec vous. Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, accueillir Marina Devant, c'est une chance puisqu'elle est très, on la suit depuis très longtemps, on la lit, on la voit et on a été très heureux là de pouvoir l'entendre.
Oui, discuter avec elle et pouvoir enregistrer ses propos. Sa parole est assez rare et elle est d'autant plus précieuse et on voit à quel point elle sait s'exprimer et témoigner parallèlement à son art de ses traumas et de ses pensées intimes.
Donc c'est ce soir notre invité. Bonsoir Sixtine Audebert.
Bonsoir cher François.
Une actualité.
Oui, écoutez, je viens de terminer un petit papier sur le Alien de James Cameron pour le prochain hors-série de Mad Movies. Et voilà. Puis sinon, je révise mes classiques de l'exploitation en prévision du concert de La Muerte. Vous vous souvenez, ce groupe belge de heavy rock dont je vous avais déjà parlé à Mauvais Genre et qui est totalement perfusé de cinéma et qui donne la semaine prochaine, le vendredi 5 décembre, son concert d'adieu au nouveau Casino de Paris. Donc j'invite tous les auditeurs qui est féru de ce genre de sonorité et d'excroissance bizarre à se joindre.
Voilà, amateur d'excroissance, vous savez où vous avez rendez-vous. Bonsoir Stéphane Duménildo.
Bonsoir.
Une petite actualité.
Oui, j'ai participé à un excellent podcast de Jean-Baptiste Garnier qui s'appelle Bizarroïd, qui est hébergé par le Blog du Cinéma. Voilà, où j'ai pu revenir à mes premières amours, comme La Comtesse Noire de Jess Franco.
De fait, et vous étiez effectivement la première fois où vous êtes venu à Mauvais Genre. C'était pour parler de Jess Franco. Mais ce soir, nous allons parler, écouter Marina Devant. Rapidement, Philippe Rouillet, un portrait synthétique pour ceux de nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas.
Avec cette double actualité, parce que en fait, on connaît Marina Devant, la cinéaste, donc génération Fémis, c'était la même promotion, je crois, que François Ozon. Enfin, ils se sont rencontrés à ce moment-là. Donc, un certain nombre de courts-métrages, dont deux sont dans cette édition DVD chez Pulse Éditions. Et puis, en 2002, ce premier long-métrage qui nous fracasse tous, hein, qui est Dans ma peau, un premier long-métrage qui ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'ici, avec l'histoire d'une jeune femme qui, à la suite d'un accident domestique dans une fête, s'aperçoit que sa jambe est complètement martyrisée, blessée, et qui, au lieu de s'en inquiéter, va au contraire essayer de caresser la douleur et poursuivre tout un régime de scarification, d'autophagie, et ça devient une sorte d'exploration du corps. Ce qu'elle disait à l'époque, j'avais fait un long entretien dans Positif, elle disait « la caméra me permet de filmer ce que je ne peux pas voir », parce qu'on se réapproprie en quelque sorte son corps. Et dans le roman qui sort là, qui s'appelle « Point de suture » chez Abstraction, c'est encore un peu la même chose, c'est-à-dire que l'héroïne, elle est mannequin, et elle a un accident qui lui détruit complètement le nez, et du coup, il va falloir quand même faire quand même des travaux de chirurgie réparatrice. Et en cours de route, elle s'arrête. C'est-à-dire que on lui propose une greffe. Il s'agit de descendre le cuir chevelu. Et en fait, l'épisode de reconstruction, elle le refuse. Et pour opter pour cette monstruosité. Et donc, ça devient un tout autre rapport à la beauté, à l'apparence, au corps, et les deux œuvres se répondent. Et ce qui est important dans l'édition Pulse, parce qu'on avait déjà un DVD, mais qui était un peu difficile à retrouver, là, il y a un magnifique 4K, en plus du Blu-ray, si vous pouvez acheter que l'édition Blu-ray, mais il y a un nouvel entretien avec Marina dans ce Blu-ray où elle explique que ce qu'elle refusait de dire à l'époque, qu'il y a une part d'autobiographie dans ce rôle qu'elle a elle-même tenu dans son premier film, c'est elle qui jouait. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de revenir avec elle dans cet entretien.
Merci Philippe pour cette présentation de Marina Devant que l'on retrouve.
Bonjour Marina, l'actualité ce mois-ci elle est double puisque il y a d'une part votre premier long métrage qui ressort dans une magnifique édition Blu-ray 4K chez Pulse Vidéo avec des suppléments inédits, on va en reparler, et puis il y a votre nouveau livre Point de Suture chez Abstraction. Quand je dis nouveau livre, c'est nouveau roman, même si c'est en fait un roman, on en parlera tout à l'heure, que vous avez écrit il y a déjà un moment. Alors peut-être on peut commencer avec le film, parce que antérieurement, c'est un film de 2002, il sort en 2002, c'est votre premier long métrage, et aujourd'hui, vous faites en quelque sorte votre coming out sur le film dans les bonus, puisque dans un entretien, vous expliquez que, à la sortie du film, vous expliquez que le sujet, donc l'histoire de cette femme que vous interprétez, qui est en couple, qui a un travail dans une boîte de sondage et d'études, donc qui a des visées à la fois professionnelles et privées, va découvrir l'automutilation, l'autophagie, au point de mettre en péril sa vie privée et sa vie publique. C'était ça. Et c'est ce personnage que vous jouiez, que vous interprétiez de manière absolument extraordinaire. À la sortie du film, je me souviens très bien parce qu'on avait fait un long entretien pour Positif, vous expliquiez que c'était pas du tout autobiographique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et aujourd'hui, vous expliquez que si.
Moi, j'avais une préoccupation quand j'ai fait le film et quand je l'ai sorti, c'est que ça ne soit pas réduit à un témoignage. Comme on fait un reportage, comme si j'avais fait comme ça une espèce de complainte sur ma vie. Voilà. Je voulais qu'on voit que ce que j'avais expérimenté sans le dire, je voulais qu'on voit à quoi ça correspondait dans le rapport qu'on peut avoir au corps, dans le fait, notamment mon argument principal, c'était une chose que j'avais vécue, à savoir que notre corps, nous, on ne le perçoit pas. On perçoit que des morceaux. Déjà, on ne voit pas notre tête. Hein, et ensuite, même le corps, là, moi, qu'est-ce que je vois de moi? Je vois un seul bras et je vois une seule jambe. Et je vois même pas un buste, je vois un pullover. Et cette étrangeté du corps qui se manifeste aussi dans le film par le fait qu'elle se blesse sans s'en apercevoir, et que ça lance tout un questionnement sur que fait mon corps quand je ne m'occupe pas de lui? Est-ce qu'il a sa vie? Est-ce qu'il a... Voilà. Et donc, en fait, dans le film, pour moi, ce personnage tentait une réconciliation, une communication avec le corps. Voilà. Toutes ces choses, je les avais vécues. Mais si j'avais dit... Oui, c'est mon histoire. Oui, ce sont mes automutilations. On n'aurait pas vu une œuvre d'art. Et moi, j'avais la prétention, ou légitime ou illégitime, de faire une œuvre d'art. C'était mon but. Ensuite, les automutilations sont vraies. Non pas, elles n'ont pas été réalisées sur le plateau. J'aurais jamais fait ça à une équipe. Je sais que j'avais eu, dans une émission de radio, j'avais entendu un truc d'une stupidité sans nom de Grand Rieu, le cinéaste Grand Rieu, qui avait dit « Ce film ne vaut rien parce que les automutilations... » sont fausses, ce sont du maquillage. Mais quel réalisateur inflige à 30 personnes dans une équipe d'assister à une véritable automutilation? Faut être pervers, on fait pas ça aux gens. Donc si on tourne avec des gens, si on tourne avec 30 personnes dans une équipe, quoi qu'on pense, on fait de la fiction. On ne les rend pas témoins de quelque chose qui est brutal et qui ne les regarde pas. Donc, voilà, aujourd'hui, avec le recul, le film s'est tellement installé dans l'esprit des gens, dans la mémoire des gens, et pas qu'en France, à l'étranger, que je peux me permettre de dire « oui, c'était mon histoire », à ceci près que j'avais pas de travail de ce genre, j'avais pas le petit ami du film, voilà, il y a des choses qui sont... Mais la plupart, la scène de la pharmacie, par exemple, est purement véridique.
Ah oui, cette scène de la pharmacie, vous pouvez la raconter ?
Oui, vers la fin du film, quand le personnage prélève sa peau et veut la tanner, en fait, elle veut la tanner pour la garder pour toujours avec soi, comme on garde un enfant ou comme on garde un ami, quelque chose de souple, quelque chose qui ne mourra jamais. Et donc, comme elle ne sait pas comment faire pour tanner sa peau après une nuit où elle l'a retirée, elle va à la pharmacie pour demander comment elle peut tanner de la peau. Et c'est là que le pharmacien lui conseille la lin de potassium. Elle suit comme moi j'ai suivi. J'ai acheté la lin de potassium. Je l'ai appliquée, la lin de potassium. Ma peau est morte. Ma peau est morte malgré ses... Donc, il m'a mal orientée. Mais en tout cas, j'ai remis la scène exacte parce que je pense que c'était une scène surréaliste et pour moi et pour lui parce que je l'ai amenée en plus ma peau. Donc, il a bien compris. Donc, c'était une situation vraiment étrange. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que le fait que ce soit autobiographique a permis au film d'être percutant. Pourquoi ? Parce que avant qu'on le mette en production, ma productrice m'a dit « Marina, on ne peut pas faire le film, on ne trouve pas l'argent parce que tu n'es pas connue. Il faut qu'on fasse faire le rôle à Vanessa Paradis. » Et donc, moi, je lui ai dit... Je suis peut-être une petite nana que personne ne connaît. Mais toi aussi, tu es une petite nana que personne ne connaît. Donc, si moi, on ne fait pas confiance à mes capacités, on peut tout à fait mettre en doute tes capacités de productrice. Moi, c'est mon premier film et toi, c'est ta première production. Donc, soit on le fait dans les conditions que je dis. Et moi, je vais fournir des décors. On a tourné chez ma mère plusieurs... Je vais revoir mon découpage qui était un découpage très ambitieux que j'ai réduit à un découpage de survie, un peu master champ contre champ, enfin quelque chose de beaucoup moins ambitieux que ce que je voulais. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire le film. Et pourquoi est-ce que j'ai joué ce rôle ? J'ai joué ce rôle parce que personne d'autre ne pouvait le jouer, parce que une actrice aurait volontairement ou involontairement mis de la violence, de l'agressivité, quelque chose de l'autodestruction, parce que les gens assimilent automutilation à autodestruction. Et bien évidemment, il y a un aspect destructeur, mais automutilation, moi je le vois plutôt comme un réflexe de survie dans un climat psychique insupportable. C'est une façon de dire la douleur, d'essayer de la transposer et d'ouvrir un dialogue avec ceux qui la constatent et avec qui on peut discuter. Donc, je voulais éviter le côté hystérique de l'automutilation parce que ce n'était pas mon expérience. Dans mon expérience véritable, l'automutilation, je l'ai vécue comme uniquement des actes d'amour. Un amour pour mon corps immense, tellement immense que je voulais voir son sang, que je voulais voir ce qu'il y avait dessous, que je voulais voir prendre son goût. Mais pour moi, c'est tout était fait dans la grâce et l'amour. Et la nuit où j'ai retiré ce morceau de peau avant d'aller à la pharmacie, j'ai pris des photos de moi dans la glace. Je m'étais maquillée avec le sang de ma jambe. J'avais mis 14 heures à découper ce morceau. C'était très difficile parce que pour découper une fine couche, en fait, il faut mettre le couteau de biais comme ça pour trancher ni verticalement ni horizontalement pour pouvoir... Voilà, donc c'est très compliqué. Et j'ai pris ces photos de moi. Et je ne m'étais jamais vue aussi belle dans cette glace avec ces... Donc, moi, j'ai vécu l'amour, la grâce, tout en faisant ce qu'il fallait pour cesser. Et puis, j'ai cessé. C'est-à-dire, à un moment donné, il est devenu évident que j'avais besoin d'aide. Quand je me suis mis à... J'avais envie de manger mon père, mon frère. Bon, bref. Donc, le psy a permis de dépasser cette étape et de ne plus jamais s'automutiler. Mais le film a participé de ça, c'est-à-dire que même si j'aimais beaucoup l'automutilation, je voulais que ça cesse parce que je ne voulais pas être dans la répétition. C'est pour ça que dans le film, aucune automutilation ne se répète. C'est de plus en plus grave. Donc je me disais, maintenant, ce que je peux faire, c'est forcément très grave. Donc ça ne va pas. Et j'ai fait le film en me disant, désormais, si je m'automutile, j'aurais l'impression de me parodier moi-même parce qu'il y a un film. Ça a fonctionné. Jamais plus. Aujourd'hui, vous me donnez un cutter, vous me donnez un truc pour les diabétiques, pour faire une piqûre du doigt, je suis terrifiée. Il est impensable. J'étais dans un autre état, un autre monde, un autre climat psychique pour que supporter une telle souffrance ait été possible, alors qu'aujourd'hui, mais je n'en supporterai même pas un dixième. C'est une souffrance immense. Donc voilà. En tout cas, je me suis dit, je ne vais plus me compliquer la vie. Je vais te dire que c'est la réalité, parce que le film a fait artistiquement ses preuves et que personne ne le remettra en cause aujourd'hui pour ce motif. Et c'est plus facile pour moi, c'est une solution de paresse. Et aussi, je me suis dit, ça change, parce que j'ai fait toute la promo en répétant un certain discours. Et là, j'ai un autre discours. Et que peut-être si, dans 20 ans, il sort en... Je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont dans 20 ans, petite clé USB, là, j'aurai un nouveau discours. Et je dis, ah non, c'est pas moi, c'était ma sœur. Je suis pas de sœur, mais bon, voilà. Je ne sais pas, on verra. Il y aura une nouveauté à chaque... Si l'intérêt continue à relancer le film.
Comment vous êtes fait ça?
Je suis tombée sur des éléments métalliques. Dans un chantier, un outil, je pense.
Enfin, ça vient pas d'être fait, ça. Ça a au moins 3 ou 4 heures. Pourquoi vous avez traîné comme ça?
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as la moitié de la chambre arrachée, tu t'en rends pas compte. Elle lâche tes fleurs, tu te retournes, tu te grattes, alors.
On a regardé partout dans la chambre, on a trouvé un truc bizarre. Il y avait du sang sur le sol dans la salle de bain. On avait peur de tomber sur un cadavre.
Après, j'ai été mentaillée.
Comment tu t'es entaillé?
Avec un truc en fer.
J'ai compris, mais qu'est-ce que tu faisais avec ce truc en fer?
Je m'entaillais.
Je suis perdu le contrôle, je suis tombée. Ça.
T'es incapable de me donner une explication cohérente? Montre ta main. Ouais, dépêche-toi. Mais d'où ça t'est venu une idée pareille? De quoi t'avais envie de ça?
C'est pas toi qui as fait ça.
Je t'ai dit, j'ai eu envie. J'ai pas réfléchi, je sais pas pourquoi, j'ai fait une connerie, je la referai pas.
Non, mais je m'en fous de ce que tu comptes faire ou pas, tu l'avais prévu, ça?
En fait, ça t'a pris comme ça, ça va pas recommencer. Sinon, tu peux voir un médecin et prendre un médicament.
Première fois que je vois ça.
Sauf qu'avec ses blessures, il risque de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique.
Et ça veut dire que t'as des préoccupations que je connais pas et que je te connais pas.
Si tu me connais.
C'est insupportable pour moi de voir ça.
Le film, il est là et il existe 23 ans après, dans toute sa gloire, j'allais dire, cinématographique, dans toute sa qualité cinématographique. Parce que vous avez dit que vous avez revu votre découpage à la baisse, mais en tout cas, il y a un découpage, le film entièrement storyboardé, et c'est un extraordinaire plaisir de voir comment, au début du film, vous cadrez votre personnage avec votre ami, avec votre petite amie, et que, évidemment, plus vous vous enfoncez dans votre aventure avec votre corps, plus eux se décalent, et il n'y a plus que le champ contre champ, ils ne peuvent plus être avec vous dans le cadre. Ça, c'est des effets de mise en scène. Et dès le générique, vous avez cette idée d'écran coupé en deux, avec deux réalités, en fait, une réalité objective et une réalité qui serait subjective.
Je suis d'accord avec vous, il reste des intentions de mise en scène. Mais par rapport à l'ambition du découpage que j'avais fait, qui supposait aussi un décor, des miroirs, des machins, j'ai en fait tourné tout le film avant le tournage. On était trois, il y avait moi, le chef-op et l'ingénieur du son qui prenait des notes. Le chef-op et moi, on faisait juste l'image, la caméra. Et on a tourné avec les acteurs certaines scènes. On a fait, en fait, moi, j'ai fabriqué les effets spéciaux. En fait, j'ai superposé des couches de canson de certaines couleurs, beige pour la peau, rose, rouge. Et on a filmé. Et donc, on s'est retrouvé avec un film d'à peu près 1h30, 2h, qui était le film qu'on allait faire. Voilà, donc c'était plus qu'un storyboard, c'était un vidéoboard.
Presque un animatique en termes de film d'animation. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez à l'époque et qui je pense est toujours vrai, c'est que la caméra vous a permis de voir des choses en vous que vous ne pourriez pas voir, parce que là, en faisant tout pour de vrai, la douleur est tellement immense que il y a un moment où un des sujets du film et dès le début quand vous allez aux urgences et que sous le ton de la blague, l'interne qui est d'ailleurs joué par votre frère Adrien vous dit mais cette jambe c'est la vôtre. Enfin, et c'est presque cet élément-là, c'est-à-dire voir son corps comme un objet, avec cette idée quand même que ça a des limites qui est celle de la douleur, qui peut finalement être insurmontable. Mais vous explorez ça jusqu'au bout dans le film, avec par exemple cette séquence du dîner d'affaires, où vous voyez votre bras complètement dissocié.
J'ai une anecdote sur cette scène. Donc on tourne le film, on tourne les, voilà, tout dans la rapidité, etc. Et puis on arrive au restaurant pour tourner la scène du restaurant. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'équipe fait grève. L'équipe fait grève, pourquoi? Donc je dis, qu'est-ce que vous avez? Il nous dit, on tourne pas cette scène. Je dis, pourquoi? Et on me dit, parce qu'on veut te protéger de toi-même. Tu ne te rends pas compte que cette scène est ridicule, qu'elle est impossible et que tu peux pas tourner cette film. On peut pas te laisser détruire ton propre film en faisant n'importe quoi. Et on t'assure que c'est n'importe quoi. On a perdu 3 heures. Donc je leur ai expliqué que pour moi, cette scène était capitale et qu'elle n'avait rien de ridicule et qu'elle ne ferait rire. Enfin, qu'elle ne... rire si elle peut faire rire, mais que c'était la quintessence du propos, cette scène. Et il disait, on ne peut pas te laisser détruire ton film. Il voulait me sauver de moi-même. Et on était désemparés, le maquilleur et moi, parce que le maquilleur, il pensait comme moi, que c'était une scène forte, c'est lui qui avait fait le bras, enfin bon. Et puis eux, ils voulaient me protéger de, comme si j'avais des pulsions autodestructrices en tant que cinéaste. J'ai tenu bon. Et j'ai pas bougé. On a perdu 2-3 heures, comme ça, à se regarder en chien de faïence. Eux, campant sur leur position, moi sur la mienne. Finalement, ils ont cédé. Et après, c'est devenu la scène préférée de tout le monde. Mais parce que c'est celle qui rend le propos que j'avais quand j'ai sorti le film en 2002 et que j'ai pas voulu souligner l'aspect autobiographique, que j'ai voulu plutôt souligner le rapport que nous avons tous à notre corps et ce qu'il a d'anxiogène. Le bras coupé sur la table correspond exactement à ça, c'est-à-dire tout d'un coup au sentiment que quelque chose ne nous appartient plus. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi une chose aussi banale que ce moment où elle dort et elle se réveille et son bras est engourdi, ce qui nous est arrivé à tous, de se réveiller avec un bras. Et on a l'impression que ce n'est pas notre bras. Parce qu'on le touche, on ne le sent pas. Il paraît... Voilà, donc j'ai mis cette scène qui est une espèce d'écho subtil à la scène du restaurant pour faire comprendre ce sentiment à un moment donné d'un corps étranger. Moi, il m'est arrivé un jour sous l'effet d'un médicament qui ne m'a pas réussi. Je marchais dans la rue, pas loin de chez moi, et tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette jambe? Et je me regarde et je vois, enfin, je comprends en regardant mes jambes que la jambe gauche m'appartient, mais que la droite n'est pas à moi. Et je continue de marcher et je me dis, c'est formidable comme ces jambes marchent ensemble. C'est incroyable qu'elles arrivent à s'entendre et qu'elles arrivent à s'articuler, à articuler un mouvement ensemble, alors qu'il y en a une qui m'appartient et l'autre pas. Et donc, je suis rentrée, j'ai écrit à mon thérapeute. Moi, je dis, j'ai une jambe en trop, j'ai une jambe qui n'est pas à moi. Et il me dit, oui, bon, bah, prenez ça, mais c'est rien du tout. Et pour lui, c'était une espèce de fantasmagorie épileptique qui était liée à quelque chose d'épileptique, comme les épileptiques, avant de faire une crise d'épilepsie, ont souvent des perceptions un peu exacerbées, un peu ou mystiques ou étranges. Ou, voilà, donc là, la jambe, c'était... Moi, ça ne m'a pas fait peur du tout. J'étais juste profondément perplexe. Donc le bras, oui, c'est vraiment... Et à cette époque, moi, j'avais beaucoup des espèces d'hallucinations. Par exemple, quand j'étais dans ma chambre, sur le lit, pour lire, je me disais, mais on me mène en bateau. Ce que je vois ici, ce corps allongé sur le lit qui lit, il n'est pas là, en fait, le corps... En fait, je suis dans le salon, mais je suis dans la chambre, mais mon corps est dans le salon. Ou alors, je passais devant des immeubles en voiture et je me voyais à toutes les fenêtres. J'avais vraiment une difficulté à coaliser ensemble ce que je percevais de mon corps. Donc ça m'arrivait d'avoir des sentiments aussi de dépersonnalisation, donc de foncer aux urgences psychiatriques, où la psychiatre, je me rappelle qu'il m'avait reçu ce jour-là, m'avait dit « Vous maîtrisez parfaitement le langage, de quoi vous inquiétez-vous » Et je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle est conne ?» Et voilà, donc cette scène du restaurant, pour moi, c'est la profondeur, on va dire, je le dis sans prétention, je veux juste dire l'épaisseur du geste automutilatoire, qui n'est pas une agression, qui est la réponse à une difficulté à s'approprier son corps, et une tentative de construire cette réappropriation pendant la, avec la douleur. Et je dois dire, malheureusement, que ça marche. Alors, je rajoute tout de suite pour que les gens n'aient pas l'impression qu'il faut s'automutiler pour être bien dans sa peau, parce que c'est faux. Et j'ai été très attentive dans le film à ne rien laisser passer d'une esthétisation du sang qui pourrait donner envie aux gens de se blesser. J'aurais trouvé ça irresponsable. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi une fin qui est très claire sur le fait que l'automutilation est une impasse et que ce personnage est foutu. Donc, pour moi, c'était très, 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 très important de ne pas encourager qui que ce soit à imiter ce qui se passe dans le film. Mais, en tout cas, pendant un certain temps, à un moment de crise dont je suis sortie depuis des décennies, hein, donc j'en parle de manière très décontractée parce que c'est très très loin derrière moi, il y a quelque chose qui fonctionne dans le sentiment d'une intimité avec soi, puis aussi de... je me rappelle de discussions surréalistes avec mes parents. Je disais, je fais ce que je veux de mon corps, il est à moi. Et ils me disaient, mais non, il n'est pas à toi, il est à nous. Et donc ça me donnait deux fois plus envie de m'automutiler pour dire, si, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donc... tout ça, c'est une impasse, mais ce sont des choses que j'ai vécues. Et du coup, pour en revenir à ce que vous disiez au départ, je pense qu'une actrice, aussi bonne soit-elle, c'est pas seulement qu'elle n'aurait pas été capable d'éviter l'agressivité, la violence, si je lui avais demandé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit stupide. C'est juste qu'elle n'a pas senti les choses que j'ai senties, elle n'a pas vécu les choses que j'ai vécues. Et donc, l'espèce de douceur, de tendresse dans le geste qui fait mal, c'est une chose qu'elle ne peut pas sentir profondément. Et il y a tellement d'amour, en fait, dans ces gestes-là, à cette époque, c'était la forme. Aujourd'hui, il y a tellement d'amour sous une autre forme. Mais il y avait tellement d'amour sous cette forme. Je crois que je n'aurais pas su trouver les mots pour lui dire, voilà, il faut jouer de telle manière ou de telle manière, ce qu'elle aurait peut-être fait brillamment. Mais j'avais besoin de le montrer, en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin de le jouer. Et de toute façon, c'était un petit film avec un petit budget, donc on n'avait pas besoin d'une star. À l'époque, aujourd'hui, je pense que faire un film sur automutilation serait impossible, quelle que soit l'actrice. Mais à cette époque, ça a été possible, difficilement, mais ça l'a été. Et je pense vraiment que j'ai été le bon choix comme comédienne pour ce film, justement pour cette douceur inattendue qu'une actrice n'aurait peut-être pas eue.
Marina Devant, on parle depuis le début de notre entretien de toutes ces scènes, effectivement, où le personnage principal est en proie à son corps et où célèbre avec son corps une sorte de rituel intime, sacrificiel ou pas, c'est la vision qu'on peut en avoir. Néanmoins, elle évolue au quotidien, de par son métier, dans un monde où le corps n'existe plus. Enfin, on dirait qu'il a été refoulé. Il est entièrement normé, il est entièrement ordonnancé. Les gens sont assis. C'est pas un métier... c'est un milieu où le corps, d'une certaine façon, est soit nié, soit oublié, soit tenu en lisière, extrêmement tenu comme ça. Et là, c'est une manière, ce qui lui arrive, c'est une manière de ramener le corps comme premier sujet du débat. On a l'impression que c'est une réinvention du corps, douloureuse, dans un monde où ce corps est nié.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le film n'aurait jamais été le même si ça s'était passé au sein du corps de ballet, de danse classique de l'Opéra de Paris. Je veux dire, une danseuse qui travaille 12 heures par jour avec les pieds en sang parce qu'elle fait des pointes, avec tout son corps qui lui fait mal, avec la faim parce qu'elle doit s'affamer pour ne pas devenir ronde, etc. Et ce travail du corps, etc. ce n'aurait, voilà, ça n'aurait pas pu arriver. Alors que là, effectivement, j'ai choisi le travail. Alors, le travail, je l'ai choisi par opportunisme. C'est-à-dire que moi, à cette époque, je fréquentais une bande d'amis que j'avais rencontrés au lycée Henri IV. En Cagne, et qui travaillaient dans un institut de sondage, et qui ont pu non seulement m'expliquer, mais me présenter une fille qui était censée être moi. J'ai perdu tout souvenir de cette fille qui est morte. Alors, je ne me rappelle pas d'elle, mais en tout cas, moi, j'avais accès à ça pour faire quelque chose de réaliste, pour leur faire relire mes scènes professionnelles, et pour ne pas faire n'importe quoi. Parce que si j'avais fait un film qui était autobiographique jusqu'au bout. Donc j'aurais été une ex-étudiante fraîchement sortie de l'école, complètement seule, sans petite amie, sans tellement d'amis, sans activité professionnelle, et qui s'automutile. On était dans le glauque total. Et il y avait surtout pas la matière à un scénario a besoin de conflit. Donc et puis ce que les actions ont besoin d'enjeux. Donc, si elle n'a rien à perdre à s'automutiler, le film n'a aucun intérêt. Elle s'automutile, elle fait ce qu'elle veut, elle part, elle court toute nue avec des plumes dans le cul, on s'en fout. Si elle a quelque chose à perdre, c'est-à-dire son mec, et c'est-à-dire un travail corporate, très comme ça, où les gens sont un peu normopathes, elle a vraiment des choses à perdre avec ses actions, et c'est ce qui rend la fin tragique. Mais dans le contexte de ma vie de l'époque, moi, j'avais rien à perdre. Donc ça n'avait pas de valeur cinématographique. Mais en fait, c'est né aussi du fait que les gens de la Fémis, il y a deux réalisateurs qui m'ont piqué mes automutilations et qui ont essayé de, enfin, qui les ont mis dans leurs films. Et ce qui était désopilant, c'est que ils ont pas, par exemple, il y en a un, je dirais pas son nom, il a fait un film court où la personne se découpe et se retire un carré de peau sur le bras. Sauf que sur le bras, c'est impossible. Ça prouve qu'il comprend rien parce que qui c'est qui tient la peau? Qui sait comment on fait? Ça, c'est pas possible. On peut pas faire un travail propre comme ça. On peut faire une boucherie, mais on peut pas faire un truc. Voilà, c'était idiot. Et puis une autre qui voulait reprendre ma vie et la mettre à l'image. Et c'était une réalisatrice, une connasse. Et donc, je lui ai dit, ne fais pas ça. C'est ma vie. Si quelqu'un doit filmer ma vie, c'est moi, mais c'est pas toi. Et devant cette pression que j'ai très mal vécu, j'ai abandonné le long métrage que j'écrivais. En fait, je comptais, j'avais un autre premier film et j'ai arrêté ce scénario et je me suis dit, bon, puisque tout le monde s'empare de ma vie, moi, je vais en faire un film et on verra bien qui dit la vérité. Les gens se tromperont pas entre ceux qui savent et ceux qui savent pas. Donc, en plus, ça m'a fourni un motif. Je trouve, je pense que ça doit dépendre des gens, mais je trouve qu'on travaille mieux dans la haine. C'est-à-dire, moi, travailler contre des gens, travailler pour faire du mal à des gens, à des gens qui m'ont fait du mal, je ne parle pas du public lambda, mais travailler par haine et contre quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est le meilleur moteur qui fonctionne pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas une personne haineuse dans la vie, je ne suis même pas gravement rancunière, donc voilà. Mais la haine et la colère sont mes meilleurs moteurs, voilà, qui s'épuisent un peu parce que aujourd'hui où je suis très heureuse, je suis plus très bien. Qui agresser?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les thématiques, l'approche du corps de ce premier long métrage est vraiment le point d'entrée de toute votre œuvre et va être décliné ensuite. Sous forme de film et aussi sous forme de livre. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ce roman, Point de suture, donc aux éditions Abstraction, et où finalement il y a la même chose. C'est-à-dire qu'on a une héroïne qui, à la suite d'un accident, parce que dans ma peau, c'est un accident sur un chantier, voilà, et là c'est pareil, un accident, elle glisse dans sa cuisine et puis son nez se retrouve dans une casserole d'eau bouillante. Et donc, à partir de là, à partir d'un accident, ça va complètement changer son rapport à son corps, son rapport à ce nez. Elle va d'abord essayer de cacher ça, parce que comme elle est maquilleuse professionnelle, c'est son métier dans le livre, elle va essayer de... Et puis après, il y a un moment où elle s'aperçoit que c'est impossible, qu'il y a une vraie douleur et tout ça, que ça empire, que même les produits qu'elle met dessus doivent saloper la plaie. Et donc, il y a un moment où elle va voir la médecine et on va l'engueuler. Et à ce moment-là, on va enclencher une opération pour essayer de changer ce nez. Mais... c'est lié, avant d'arriver à cette opération-là, et c'est lié à toutes les visions qu'a le personnage. Elle voit des jambes qui ne sont pas ses jambes, elle voit une jeune fille qui sortirait de son dos, donc le côté d'une réalité alternative, qui était déjà dans ma peau, et aussi, au fur et à mesure que se développe le livre, la thématisation d'une beauté de la difformité. D'une beauté, d'un corps qui n'est pas un corps normal, selon les termes... Alors qu'en plus, cette fille maquille des mannequins, donc elle est au cœur de cette quête de la beauté. Et justement, cette quête de la beauté, elle va la trouver dans la monstruosité, en quelque sorte. Et pas une monstruosité comme dans Todd Browning, où il y aurait une beauté intérieure et que le corps resterait laid. Là, c'est dans la difformité du corps qu'il y aurait tout d'un coup une grâce et une beauté.
Alors en fait, ce qui se passe, alors d'abord sur la chirurgie, c'est une chirurgie en deux temps. Donc il y a une première opération qui produit un visage défiguré qui est insoutenable. Moi j'ai vu les images. Hein. Donc là c'est un livre, donc c'est soutenable, mais quand on voit les images, c'est insoutenable. Donc cette opération se fait en un premier temps avec une défiguration totale. Et il y a une seconde phase réparatrice qui redonne au visage son aspect antérieur avec le nez blessé qui est soigné, qui est plus desquamé, je ne sais pas comment on dit, qui a repris de la texture, etc. Et en fait, elle, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans l'obsession de la beauté, pas seulement pour les mannequins, mais au début du livre. Il y a une scène où elle va chez sa chirurgien esthétique pour lui dire « rendez-moi belle », sachant qu'elle est déjà belle. Bon, « rendez-moi belle », et il lui dit « ça veut rien dire ». Il lui dit « c'est quoi qui vous gêne dans votre visage ? Est-ce que c'est le nez ? Est-ce que c'est les yeux ? Est-ce que c'est la bouche ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce que vous voulez que je change ?» Et elle dit « mais vous changez ce que vous voulez. Ce que vous faites, c'est que vous faites de moi une femme belle. » Donc, cette démarche, elle se fait évidemment y conduire. C'est pas une démarche logique. Et il lui dit « écoutez, moi, je suis là pour faire quelque chose pour des gens qui ont des complexes, pour des gens qui ont une souffrance par rapport à un défaut esthétique qui les empoisonne. Mais rendez-moi belle, ce n'est pas du tout une demande recevable. » Donc il les conduit. Et avec la défiguration et le fait d'assumer d'être un monstre physique, elle se libère de cette injonction de la beauté, et ce qui est la première libération avant une libération de tout, de libération de tous les liens, de toutes les obligations, de toutes les même de toutes les catégories avec lesquelles on organise le monde. Le monde devient un immense champ perceptif par lequel elle est absorbée, où tout est contemporain, où tout coïncide, où tout se mélange, où il y a des synesthésiques. Ça doit se sentir dans le style qu'il y a une collusion des sensations de différentes provenances et des pensées de la vie mentale et des sensations corporelles, et que tout ça devient peu à peu le tissu de sa vie, et qu'en quelque sorte elle s'abolit comme individu et comme femme concentrant la beauté comme elle le souhaitait auparavant. Elle s'abolit comme individu et elle laisse place à la beauté du monde et à une beauté qu'elle n'avait jamais soupçonnée, c'est-à-dire qui n'était pas du tout la beauté qui répond aux standards médiatiques des top modèles, qui est une beauté beaucoup plus profonde, qui est la beauté de la vie, la beauté de l'existence. Et c'est ça qu'elle découvre, c'est en ce sens-là qu'elle meurt elle-même et elle se transforme. Ce qu'elle découvre est beaucoup mieux. Alors évidemment, ça passe par des scènes que j'ai voulu comiques, de confrontation avec l'entourage, parce que l'entourage ne peut qu'être consterné par son visage et en souffrir terriblement. C'est-à-dire, il y a une scène où elle dîne chez son frère dans un état piteux. La mère a plus d'ironie, donc elle tient mieux. Mais avec son amie aussi, quand elle chante Michel Sardou, il y a une violence faite aux autres. Mais elle est guidée vers cette espèce d'épanouissement dans l'effacement et dans la splendeur de toutes les formes. Et c'est pas que son visage devient une nouvelle forme. Ça fait partie de la vie comme le reste. Mais c'est pas que ça devient une nouvelle norme de beauté. C'est juste la beauté est ailleurs. La beauté n'est pas dans la perfection des traits ou du corps d'une femme. Il est dans la brutalité du monde, dans l'horreur du monde, dans le foisonnement du monde. Une petite nana maquilleuse qui, quand je dis petite nana, c'est pas parce qu'elle est maquilleuse, hein, qui est pas de malentendu, mais une petite nana comme ça, obsédée par son apparence, passe à côté de la vie complètement. Donc, et elle cesse de passer à côté de la vie et elle va mettre un pied dans la vie, même si ça représente pour tous ceux qui l'entourent une grande violence.
Devant, on a le sentiment qu'il y a deux mouvements inverses dans le livre et dans le film. Dans le film, c'est quelqu'un qui veut retrouver son corps qui lui échappe en morceaux ou qui s'absente, le corps fantôme. Et dans le livre, au contraire, c'est échapper au corps pour retrouver une vérité par-delà le corps. Donc à chaque fois, c'est la difficulté d'avoir un corps comme objet, je ne veux pas dire objet de vie, mais objet stable.
C'est pas qu'elle veut vraiment échapper au corps. Parce que le corps est très présent dans son expérience, à travers les sensations. Elle s'automutile aussi à un moment. Et puis la chaleur, le froid, c'est l'ensemble de l'expérience qu'elle veut récupérer. Et le corps n'est qu'un vecteur de certaines sensations par rapport à d'autres choses. Mais il n'y a pas de vraie tentative d'échapper au corps. Il n'y a pas non plus de tentative de lui faire du mal. C'est-à-dire cette opération a été réalisée par un chirurgien. Elle ne savait pas qu'elle s'arrêterait à cette étape. Quand elle découvre son visage après la première étape de l'opération, elle est extrêmement choquée. Elle hurle, elle pleure, elle a peur. Donc, cette violence, elle la ressent, mais elle ne cherche pas. Elle accepte. Elle accepte le corps qui lui est provisoirement donné. Elle décide qu'il sera définitif, malgré les risques médicaux. Et donc, je ne trouve pas qu'elle cherche à échapper au corps. Mais je vois ce que vous voulez dire néanmoins. Il y a, en effet, le corps n'est plus le terrain d'une conquête. Le corps se fond dans l'ensemble de la matière. Et c'est en ce sens-là qu'il n'est pas rejeté, il est juste absorbé.
Autour de nous, je vois des livres, Plume, Henri Michaux, la poésie japonaise.
Je ne l'ai pas encore lu.
Sont des modèles de concision, de récits extrêmement tenus, comme ça, un peu frugal. Au contraire, Point de suture est écrit avec une écriture baroque, extrêmement lyrique, très, très nourrie, à la huissemence presque, enfin, un côté un peu fin de siècle, comme ça. Comment avez-vous déterminé le mode d'écriture? Est-ce que c'est venu comme ça? Ou est-ce que vous avez pensé que c'est, ma foi, le même, c'est cette écriture-là qu'il faut pour traduire cette histoire-là?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y a eu une espèce d'éveil spirituel, on va dire, un peu à défaut d'une meilleure expression, mais disons que tout d'un coup, le sentiment de ne pas être un individu doué de libre arbitre, évoluant au sein d'un monde situé sur une planète qui serait la Terre dans un cosmos. Et donc, tout d'un coup, ces choses-là sont devenues très... J'ai eu cette expérience d'un effacement du poids du passé, d'un effacement du poids d'être soi au profit de l'idée qui de la perspective où il n'y a pas d'individu, il n'y a que ce qui se passe en cet instant, qui n'est même pas un instant parce qu'il n'y a ni espace ni temps, etc. J'étais dans cette perspective et j'étais dans une extase qui a duré 3 ans. Et en fait, ce livre, donc, que je l'ai écrit en 2014, quelques mois après cet événement, et en fait, c'était une transe. Je l'ai écrit en 10 jours. Je ne l'ai jamais relu, je ne l'ai jamais retravaillé. C'est sorti tel quel et je n'ai pris aucune décision stylistique sur comment j'allais l'écrire. C'est sorti de moi. C'est comme si j'avais vomi. Enfin, à part que c'est mieux que du vomi. Hein. Je voudrais que les gens achètent le livre, donc on ne va pas dire que c'est du vomi. Mais c'est sorti comme ça. C'est sorti d'un coup, en 10 jours. Et alors après, je l'ai fait lire à mes proches. Et alors là, j'ai été perplexe parce que ma mère m'a dit « Est-ce que tu étais bourrée quand tu as écrit ce livre ?» Bon, alors non, pas du tout, je n'étais pas bourrée. Quelqu'un d'autre m'a dit « Mais c'est très, très cérébral. » J'avais envie de dire « Non, c'est très, très sensoriel. » Et puis, donc je me suis dit « Mais qui va aimer ce texte que j'aime tant ?» Et mon éditeur, Quentin Vestrich, des éditions Abstraction, parce que là, j'avais à l'époque un agent littéraire qui a lu ce texte, qui m'a dit « Écoute, Marina, ce que tu fais, c'est très beau. » Mais c'est impubliable. Bon, j'ai envoyé au Seuil. J'ai eu le Seuil, le fille que je connais au Seuil, qui me dit « Marina, c'est très beau, mais il faudrait... » J'en ai discuté avec le Seuil, j'en ai discuté avec les éditions de l'Olivier. « Il faudrait que tu délayes un peu l'histoire, que tu rajoutes des péripéties, etc. » Donc moi, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit des textes courts, ça se publie. On peut publier un texte court. Il est tendu comme un arc. Je ne vais pas rajouter des péripéties artificielles pour allonger le nombre de pages. Donc, à partir de là, le Seuil a dit non. Et puis, j'ai mis ce texte de côté dans mon ordinateur. Et puis, quand j'ai rencontré téléphoniquement l'éditeur des éditions Abstraction, c'est quelqu'un qui avait publié un texte court que j'avais écrit dans un recueil collectif Stonewall en hommage au... Et en fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup aimé le texte court que j'avais écrit et qui m'a téléphoné pour savoir si j'avais des... D'abord pour me conseiller d'être écrivain, alors je lui ai dit « mais je suis déjà ». Et puis pour me demander si j'avais des manuscrits et je lui ai dit « voilà, moi j'ai plusieurs manuscrits qui ont été refusés partout ». Donc je peux vous les envoyer et j'ai lui envoyé, il m'a appelé, il m'a dit je prends tout. Donc, mais finalement on en est maintenant, il y a deux livres écrits qui n'ont pas été publiés, mais je lui ai dit, et c'est une discussion qu'on doit avoir, c'est que moi avec ces années j'ai évolué dans ma façon de l'écrire, notamment dans un roman que je viens de terminer il y a quelques jours et où le style est complètement différent, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus, voilà, et où donc finalement publier mes anciens textes avec mon ancienne écriture, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est que c'est en décalage avec la réalité de ma production aujourd'hui. Et donc on va voir, et si ce texte lui plaît, ce que je ne sais pas encore parce qu'il n'a pas encore lu, peut-être ça ne lui plaira pas, mais si ça lui plaît et qu'il veut le publier, on le publiera peut-être à la place de ces livres qui ne sont jamais sortis et qui sortiront peut-être à un autre moment si j'ai des tournages et que je ne peux pas écrire mon livre annuel, et ben on a du stock. Voilà.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Marina Devant, que l'on remercie infiniment de nous avoir accordé cet entretien à l'occasion de la sortie de Point de Suture, aux éditions Abstraction, et de la sortie de Dans ma peau en 4K Ultra HD et Blu-ray chez Pulse Vidéo.
Oui, et dans cette édition, je vous le disais tout à l'heure, il y a deux courts-métrages que je vous recommande vraiment de Marina, qu'elle a fait avant son premier long-métrage, avant Dans ma peau, qui sont bien sous tout rapport et rétention, et c'est passionnant de les voir maintenant en rapport avec le reste de sa filmographie qui ne se résout donc pas on peut voir en DVD aussi bien Ne te retourne pas avec Sophie Marceau et Monica Bellucci, et puis un film que j'aime beaucoup qu'elle a tourné en Irlande qui s'appelle Dark Touch en 2013, qui est le point de vue d'une petite fille, et puis d'autres livres chez
éditions
Alia. Et chez Abstraction, Brûler l'empreinte.
Tout bien noté. On passe aux chroniques maintenant dans Mauvais Genre.
Je pleurais sur ma peine. C'est dans un cinéma que tout a commencé, le
hasard a ses lois qu'on ne peut détourner. Tu as brûlé ma vie en passant devant moi. Tu as marqué mes nuits de mille cris d'effroi. Et quand je me regarde dans un miroir le soir, je souris, je me farde autour du désespoir. Et je place ton masque, le masque du démon, sur mes yeux et mes frasques. Et je bois, et je bois.
Chronique hommage ce soir d'un mauvais genre pour vous, Stéphane Duménildo, avec Jean-Guy Denis et Udo Kier.
Oui, je ne sais pas si on a entendu la fin de la chanson, le cri d'amour de Jean-Guy Denis pour Barbara Steele. Voilà, une très très belle chanson qui est constitutrice en fait de la personnalité de Jean-Guy Denis, puisque c'est une chanson qui commence à Toulon, qui est sa ville natale, et qui raconte la dérive d'un jeune garçon homosexuel qui n'arrive pas à vivre sa sexualité, et puis qui va voir dans un cinéma donc Barbara Steele, qui va synthétiser un peu tout son romantisme noir, toutes ses aspirations. Et Jean-Guy Denis, c'est un qui vient de nous quitter, et donc nous fardons aussi, nous aussi, au ton du désespoir, pour parler de lui. C'est vraiment presque une anomalie dans la variété ou dans la chanson française, puisque moi je me souviens, quand je le voyais apparaître dans des émissions, dans des Guy Lux ou des Michel Drucker quelconque, on voyait un mélange entre Lou Reed et Fréhel, qui était maquillé comme un chanteur bas de kev, et qui allait chanter de la chanson réaliste queer, où il allait chanter des amours nécrophiles, l'histoire d'une vieille chanteuse collabo, ça c'est chez Git, qui a une parodie des chansons de café comme chez Laurette, de Michel Delpech par exemple. Qu'est-ce qu'il chantait aussi? Le fameux Midi-Minuit, qui est aussi un cri d'amour pour tout le peuple de l'ombre des cinémas d'horreur, etc. Et Jean-Guy Denis, c'est le une sorte de Jean Genet aussi de la chanson française, puisque il va aller plonger, dans sa chanson Je marche dans les villes, qui est une chanson aussi autobiographique, quand il raconte comment il va hanter les gares la nuit à la recherche d'amour illicite. Et donc j'étais très triste de voir, pour moi en tout cas, un compagnon d'adolescence tirer sa révérence. Et de façon hasardeuse, mais il n'y a pas de hasard. Ça a été, on a eu aussi le décès d'un autre grand ange du bizarre, qui est Udo Kier, donc l'homme aux 280 films, l'homme qui a été Dracula et Frankenstein pour Andy Warhol et Paul Morrissey, qui a été aussi Jack l'Éventreur et Dr. Jekyll pour Borochek, et qui fut aussi un compagnon de route de Fassbinder, un ami d'enfance de Fassbinder, puisque à 15 et 16 ans, ils allaient racoler dans les boîtes de nuit, dans les bars à routiers de Cologne, et aussi une carrière absolument fantastique, puisqu'il a été donc un acteur d'élection de Fassbinder, de Lars von Trier, de Christoph Schlickensief, qui est pas très connu, mais que j'espère qu'on va redécouvrir un jour, ou de Guy Madin. Et Udo Kier, je l'avais rencontré au festival de Gérard May, et je lui avais demandé de parler un peu de son enfance, et puis d'un point assez étrange qu'il évoque dans Épidémique de Lars von Trier, qui est justement quasiment sur sa naissance. Il m'avait dit que oui, en effet, pendant le bombardement de Cologne, l'hôpital où sa mère avait accouché de lui, donc quelques heures auparavant, avait été bombardé, et que sa mère l'avait gardé contre elle, et dans les décombres, elle avait tendu la main à travers les pierres. C'est comme ça qu'on avait pu les sauver tous les deux. Et il avait dit, parfois, je ressens les vibrations du corps de ma mère. Et il avait dit, c'est une phrase que je trouve magnifique, je suis né vampire.
Merci Stéphane pour cet hommage à Jean-Guy Denis et Udo Kier, donc, qui entre au Hall of Fame du mauvais genre.
Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois, et ta belle énergie. J'ai vieilli. Tiens, tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie.
Eh bien, je vais vous parler d'un ouvrage paru chez la raffinée Maison Séguier en avril dernier. C'est-à-dire que nous sommes un peu en décalage avec l'actualité, mais ça n'aurait sans doute pas déplu aux concernés. Il s'agit d'une réédition de deux textes jusqu'ici indisponibles. Le métier de comédien, un plaisant et fort éthylique entretien de l'acteur Maurice Ronet avec son ami l'écrivain et critique de Cinémonde Hervé Le Botterf, précédé par un non moins remarquable essai sur le destin du même homonyme, Les vies du feu follet de Jean-Pierre Montal, porté là par une impeccable plume, et dont l'auteur parvient à faire ressentir la personnalité de René avec une justesse rare. Ce sont deux lectures qui laissent, il faut le dire, une sensation d'intimité précieuse. Alors le livre s'ouvre sur la citation de René, « On est toujours connu pour de mauvaises raisons ». Et l'occasion donc nous est donnée de revenir sur les excellentes raisons de connaître René et d'explorer donc sa aussi remarquable carrière donc d'enfant de la balle, emporté trop tôt par un cancer du poumon à 55 ans en 83, mais qui, parce que selon lui il fallait tourner à tout prix, tourner plutôt que rien, laisse 96 films en 30 ans d'exercice. Des chefs-d'œuvre bien sûr, donc les classiques où il incarne le double maudit de Delon, hein, un couple de cinéma, donc s'il en est, et l'indéclassable Feu follet, bien sûr, dont on a entendu quelques samples de 1963, l'adaptation du roman de Drieu La Rochelle par Louis Malle, où il joue, disons, presque son propre rôle, et bien sûr, donc, assez chef-d'œuvre, il y a aussi beaucoup de navets, on pourrait dire, entre guillemets, qui ont bâti, comme le dit bien Jean-Pierre Montal, la réputation justifiée de René de tourner dans des mauvais films sans parvenir jamais à être lui-même mauvais. On apprend aussi plus avant la situation de ses propres réalisations. Alors, plusieurs tournages, deux documentaires, son reportage sur les varans de l'île de Komodo vers l'île des Dragons et ses images rapportées de la guerre civile au Mozambique qui le classe du côté des troubles explorateurs de l'exotisme décolonial. Toute allusion ici à une émission précédente est fortuite. Ou encore son hommage littéraire au réputé inadaptable Bartleby, un magnifique film avec Michael Lonsdale. En tout cas, persiste en refermant le livre, le parfum d'une époque, le tempérament d'une génération d'hommes, hein, les Nimier, les Takela, les Marquant, dont le beau visage trop fané pardon, de l'acteur a incarné l'élégance et la fragilité, et qui se répète être né trop tard pour l'héroïsme de la guerre, trop tôt pour la rébellion de la contre-culture, déjà fin de siècle, en plein milieu du siècle. C'est donc le métier de comédien chez Séguier.
Merci Sixtine. Voilà, eh bien, à tous ces immortes illustres, il nous faut, monsieur Rouillet.
Un vivant!
Des linceuls!
Des linceuls! Ceux de David Cronenberg, un des grands films de l'année, qui sort là chez Pyramide en vidéo, donc DVD, Blu-ray, 4K, vous prenez l'édition qu'il vous faut. Le film est passé trop sous les radars quand il est sorti au mois d'avril au cinéma, alors que le film est très brillant. Je l'ai choisi ce soir parce que ça renvoie exactement aux thématiques de Marina Devin, outre le fait qu'elle a pu avoir un lien entre son cinéma et celui de Cronenberg. Là, son personnage, c'est ça, il prend la caméra pour voir ce qu'on ne peut pas voir, à savoir le personnage principal des linceuls, et qui est joué par Vincent Cassel, qui s'est fait la tête de Cronenberg, et qui joue un peu comme lui, a mis au point un linceul qui permet de filmer le corps de la personne que vous souhaitez dans sa tombe. Et donc, avec son appli sur son téléphone, il peut suivre la décomposition de sa femme. Alors, vous imaginez évidemment ce que ça donne, ses relations avec les femmes qu'il va rencontrer, et puis surtout, quand il y a un piratage et que de tout dès qu'on parle d'appli, oui, les pirates sont tout de suite là, et donc quand son appli se fait hacker, que son cimetière se fait dévaster, et aussi bien, on est toujours dans l'univers de Cronenberg, il revient, j'allais dire, presque à ses premières amours, hein, sur le corps et tout ça, et en même temps, il y a un humour très noir qui n'a pas toujours été perçu. Or, il est là, et puis il y a sa belle-sœur, qui est jouée par Diane Kruger, qui est la sosie de sa femme. Il y a des scènes où on ne sait plus si c'est avec le fantôme de sa femme, ou sa réelle belle-sœur. Ça va assez loin dans le sexe, le piratage et la mort. Les linceuls de Cronenberg, c'est vraiment très drôle et très fort.
Merci infiniment, Philippe. Je rappelle donc ce soir les sujets évoqués. Marina Devant, d'abord et avant tout, avec la sortie en Blu-ray 4K de Dans ma peau chez Pulse Vidéo, Point de suture chez Abstraction. Le livre sur Maurice René, donc édité par Jean-Pierre Montal. Maurice René, le métier du comédien, précédé des Vies du feu follet, c'est aux éditions Séguier. On peut recommander quel film du Dokir, monsieur Duménildo ?
Mettons Mélancolia de Lars von Trier. Hein.
Voilà, moi c'est quand même le grand méchant satanique dans Breaking the Waves de Lars von Trier. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Paul Rey, Dalilia A, Claire Poinsignon, Sixtine Audebert, Claire Martin-Duguerre, Philippe Rouillet, Stéphane Duménildo et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine. Je serai en compagnie de Sextine Audebert et d'Antoine Guillot. Et nous diffuserons un grand entretien avec Franck Margerin à l'occasion de la sortie du livre chez Mediapop de Samuel Guirand. Bonsoir à tous.